Y a-t-il des questions par rapport au dernier cours? Je commence à vous poser toujours la même question, au point de départ. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine d'en inventer. Mais n'oubliez jamais que quand vous suivez un cours et qu'il y a des questions qui se posent, vous les notez sur un petit bout de papier. C'est ça qui est important. Parce qu'autrement, vous les oubliez. Alors, si on veut progresser, il faut que les questions qu'on se pose puissent être résolues. Vous voyez ? Ça, c'est le bon système. Alors, quelquefois, il faut les écrire tout de suite, les questions, parce qu'on les oublie autrement. Et puis, quelquefois, quand on les relit 8 jours après, juste avant le cours, on dit, mais oui, c'est idiot, cette question que j'ai posée. Il suffit d'avoir 8 jours de recul pour s'apercevoir que la question qu'on a posée ne signifie rien. Ça arrive très souvent, ça. Mais quelquefois, les questions demeurent. Et alors, c'est à ce moment-là où on peut les poser. Et on pose les questions qui demeurent. Donc, s'il n'y a pas de questions, je comprends, du reste, c'est un petit peu des généralités que nous avons vues jusque maintenant, comme introduction. Nous allons entrer proprement dans le problème critique. Je vais aller assez vite, parce qu'il y a des problèmes que j'ai déjà traités l'année dernière, et qu'il est bon quand même d'avancer. Alors, le premier problème de la critique, c'est d'essayer de voir la multiplicité de nos opérations de connaissances, le caractère divers de ces connaissances, et se poser la question, y a-t-il un ordre? Je crois que c'est la première question qu'on doit se poser au point de vue critique. On voit toute la grande diversité, c'est facile de voir la diversité. La diversité des sciences, le problème philosophie et science, la diversité de nos connaissances imaginatives, la diversité de nos sensations, la diversité de nos connaissances pratiques, la diversité de nos connaissances affectives. Bon, je crois que ça, nous pouvons tous comprendre ça. Y a-t-il un ordre dans ces diverses connaissances? C'est là le problème le plus difficile, parce que pour pouvoir discerner l'ordre qu'il y a dans ces connaissances, il faudrait donc comprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance. Je ne dis pas la connaissance sensible, je ne dis pas la connaissance intellectuelle, mais qu'est-ce que c'est que la connaissance? Et à partir de cette réponse, qu'est-ce que c'est que la connaissance, je pourrais hiérarchiser les diverses connaissances. Alors, quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est la question qui se pose immédiatement, vous voyez. Je ne me pose jamais qu'est-ce que c'est que la connaissance en philosophie. Je connais. Tandis qu'en critique, je dois tout de suite me poser la question, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Est-ce qu'au niveau végétatif, puisque je vis au niveau végétatif, est-ce qu'au niveau végétatif, il y a une connaissance? Non. Le vivant assimile sans connaître. Tous les jours, vous mangez et vous n'avez aucune lucidité dans le petit pain que vous êtes en train de manger. Vous n'entendez pas les gémissements du pain qui disparaît en vous. Vous ne pouvez pas. Imaginativement, on peut le faire. Vous pouvez faire un cinéma sur les gémissements de la nourriture assimilés par le boa. N'est-ce pas? Alors on voit très bien que ce que ça représente, le fait. Eh bien, l'assimilation, qui est l'opération caractéristique du vivant, et ça tout le monde le reconnaît, aussi bien les anciens que les modernes, donc il y a beaucoup de chances que ce soit vrai. Parce que quand vous avez quelque chose qui était affirmé par les vieux Grecs et qui est repris aujourd'hui, il y a beaucoup de chances que ce soit quelque chose qui soit vrai. Eh bien, le vivant, il assimile. C'est le propre du vivant. Il fait que quelque chose qui, au point de départ, était extérieur à lui, devient lui. Tandis que ça, le non-vivant ne le fait jamais. C'est extraordinaire, ça. On ne sait pas ce que ça veut dire, du reste. On affirme, on assimile. On assimile la nourriture qu'on prend. Et il y a des nourritures qu'on n'assimile pas. Alors à ce moment-là, on prend des régimes. Tandis que le bois n'a pas de régime. C'est extraordinaire de voir ça. Et il y a des vivants qui, lorsque leur estomac est moins fort, commencent à assimiler. Commencent à avoir des régimes. Parce que justement, leur assimilation est défectueuse et plus limitée. Donc, le vivant il assimile, et puis il arrive à un degré supérieur de vie qu'il connaît. Et on appelle ça le vivant de vie sensible, on l'appelle l'animal. La première connaissance que je peux discerner en moi, c'est la sensation, le toucher. Alors, ordinairement, l'assimilation est accompagnée de connaissances, mais de connaissances qui ne vont pas jusqu'à l'assimilation. C'est la première connaissance. Et là encore, il y a quelque chose de très particulier. C'est toute la différence qui existe entre le connaissant, le vivant non connaissant et le vivant connaissant. Le vivant qui ne connaît pas détruit l'aliment qu'il va assimiler. Et le vivant qui vient après ne trouve plus rien. C'est pour ça qu'au niveau de la vie végétative, il y a la lutte. Et que la vie implique la lutte. Parce que, de fait, ce que j'assimile au niveau de la vie biologique, je le détruis. Et il devient moi-même. Un autre ne peut plus s'en servir. Tandis que quand je regarde une fleur, je la regarde, même je peux la dévorer des yeux. Et même quand je la dévore des yeux, elle demeure toujours la même fleur. Et elle ne rougit pas parce que je la regarde. Ce qui est extraordinaire. Elle reste la même. Un autre peut venir après et peut la regarder. Et la fleur reste toujours la même. Et pourtant, moi, je suis changé parce que je regarde la fleur. Et la fleur n'est pas changée. Cette chose très curieuse, le premier phénomène de la connaissance. La connaissance ne détruit pas ce qu'elle connaît. La connaissance ne détruit pas ce qu'elle connaît. C'est vrai que quand je connais, je suis modifié. Je pâtis. Je suis réceptif. Je suis attentif à ce que je connais. Mais je ne le détruis pas. Et c'est pour ça qu'un autre peut venir après. Et ce n'est pas parce que je l'ai regardé avant lui qu'il aura une moins bonne situation. Sauf le mauvais œil. Ça fait bien. Le mauvais œil, c'est justement celui qui sait qu'il détruit. Platon déjà, et c'est très amusant de voir ça, parce que Platon dit que l'œil projette du feu. Ne soyez pas trop près de quelqu'un qui vous projette du feu, parce que ça va brûler. Alors ça, c'est le mauvais œil. Vous voyez, Platon n'a pas saisi ce que Aristote, lui, souligne tout de suite après, que la sensation, c'est d'abord un taux pascal. C'est le fait de pâtir. C'est très très joli de voir ça, parce que peut-être que là, nous allons commencer à saisir ce que représente la connaissance. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire au point de vue critique. Réfléchir sur ce phénomène particulier dans notre vie, qui est la connaissance. On connaît constamment sans réfléchir sur ce que c'est que la connaissance. J'aurais dû commencer par là, pendant 5 minutes, vous dire réfléchissez sur ce que c'est que le phénomène de la connaissance. Écrivez sur un petit papier ce que vous dites, ce que c'est que la connaissance. Alors j'aurais rassemblé les papiers, je ne sais pas ce que j'aurais eu comme définition de la connaissance, je n'en sais rien, ça aurait été très amusant. Ça aurait été moins nombreux, on pouvait faire ça. Quand j'enseignais au début que j'étais ici à Fribourg aux Américaines à la Fougère, elles étaient 12 pour un cours d'éthique. Et alors je faisais toujours ça, première question d'arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu? Mettez-moi sur un petit papier ce que c'est que la vertu. Alors j'avais 12 réponses, les plus extraordinaires, les plus merveilleuses, qui éveillaient tout le monde. Alors je les notais. j'avais 12 réponses sur la vertu. Puis j'essayais de voir ce qu'il pouvait y avoir. Je critiquais ces réponses. C'était merveilleux. On faisait comme ça une espèce de maïeutique. N'est-ce pas ? Parce que c'est ça la maïeutique. Alors, quand on peut, quand on n'est pas plus que 10, on peut faire ça. Quand on est plus, c'est plus difficile. Hein. Parce que le temps de relever toutes les définitions de la connaissance. Mais c'est bon pour vous de le faire. C'est pas mauvais du tout. Au début d'un cours comme ça, on fait qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Écrivez. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Écrivez pour vous. Et puis vous ferez votre propre critique à vous-même en voyant ce que je dirais la connaissance. Alors vous verrez ce que vous avez saisi, ce que vous n'avez pas saisi. Et pourquoi vous ne l'avez pas saisi ? Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas vu ? C'est toujours très important. Parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on progresse. Moi, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la connaissance. Mais si vous n'avez pas une idée une première petite idée, vous ne vous intéresserez pas du tout. Tandis que si vous avez une première idée de la connaissance, si vous déjà vous dites, ah oui, la connaissance, c'est ça. Et puis, j'aboutis à vous dire que c'est pas ça du tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas, mais c'est peut-être ce que j'arriverai à dire. C'est pas du tout ce que vous avez prévu. Alors, à ce moment-là, je dirais, mais pourquoi dit-il ça ? Alors, vous êtes obligé de confronter ce que vous avez spontanément défini de la connaissance avec ce que moi, je vous dis sur la connaissance. Où j'ai réfléchi depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai une certaine avance sur vous. Une certaine avance. C'est que je réfléchis sur ce problème depuis longtemps. Tandis que vous n'y réfléchissez peut-être pas depuis très longtemps. Alors, on a une petite avance. Alors, une petite avance, on a le temps, vous savez bien, même si on a des crevaisons sur le parcours, de rattraper. Et c'est ça l'avance qu'on a. Alors, on peut, de cette manière-là, dépanner et aider. Mais c'est très bon. C'est comme ça que le travail devient un travail de coopération. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Réfléchissez sur qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Qu'est-ce que c'est que pour vous connaître ? Pas la connaissance intellectuelle, pas penser, connaître. Penser, c'est connaître. Mais c'est connaître de telle manière. Sentir, c'est connaître. Imaginer, c'est connaître. Rêver, c'est connaître. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Puisque c'est commun à toutes ces modalités de la connaissance. Alors je vous dis, essayons de voir cette chose très curieuse, que le vivant, parce que connaître, c'est la première chose que je peux dire, connaître, c'est une opération vitale. Je crois que ça, on est tous d'accord là-dessus. Connaître, c'est une opération vitale. C'est vraiment ce qu'il y a de plus commun. Oui, mais les opérations vitales. L'opération vitale est une assimilation. C'est vrai. Fondamentalement, toute opération vitale est une assimilation. Et cette assimilation de cette opération vitale dans la vie végétative, c'est l'aliment. Et l'aliment devient le vivant. L'aliment est détruit. Il est détruit, l'aliment. Quand vous avez bien mangé, il n'y a plus que l'assiette. Hein. Il n'y a plus rien dedans. C'est bien évident. Elle est salie, mais il n'y a plus que l'assiette. L'aliment, il est pris par le vivant. Le vivant est devenu l'aliment. Donc c'est quelque chose d'actif. Il se meut et il est capable de transformer une réalité extérieure à lui pour faire que cette réalité devienne lui. Alors la science biologique étudiera toutes les modalités particulières, comment peut se faire, et les conditions, comment peut se faire cette assimilation, mais elle ne dira pas ce que c'est que l'assimilation. L'assimilation demeure quelque chose de très très mystérieux. Si vous saviez ce que c'est que l'assimilation, vous sauriez ce que c'est que la vie. Parce que vous auriez justement connaissance de ce que représente cette opération vitale où vous devenez l'autre. L'aliment est autre au point de départ et vous devenez l'autre, mais en le détruisant. C'est tout à fait l'inconvénient. D'où la vie végétative va impliquer la rivalité. C'est le premier qui se jette sur le beefsteak. Hein. On sait bien, dans les familles nombreuses. C'est le premier qui se jette sur le beefsteak qui l'emporte. Les autres, on ne sait pas s'il y en aura encore pour les autres. Vous voyez, c'est ça. C'est je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais ça a beaucoup d'importance au point de vue moral. Ça n'a aucune importance au point de vue de la vie végétative. Tu vois, il rentre pas. Donc, la vie végétative va entraîner la lutte. C'est très curieux. La vie végétative entraîne la lutte. Ça ne peut pas être autrement. Ça entraîne la rivalité et la lutte. Toute rivalité, toute lutte proviennent de là. C'est la vie végétative. Dès que je passe au niveau de l'opération vitale sensible, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je regarde, je prends toujours la fleur, hein, parce que la rose. Parce que donc, je regarde les qualités de la rose. C'est ça le propre de l'opération sensible. Je suis impressionné par ses qualités. Je suis ému par ses qualités. Ça peut aller jusque-là. Alors, comment exprimer ce fait que je vois celui qui est devant moi. Et quand je ne vois plus, je m'aperçois justement que c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux de voir. Je touche, je suis impressionné par ça. Il y a encore une assimilation, mais je ne détruis plus l'aliment. Je ne détruis plus ce que je considère. Évidemment, quand je touche, je le modifie. Ça, c'est sûr. Et quand je le vois, je ne le modifie. Du moins, je ne m'en aperçois pas. C'est possible que je le modifie un tout petit peu. Si je regarde trop longtemps. C'est possible. Mais avant, si je regarde assez rapidement, je ne le modifie pas. Donc, je suis modifié. C'est pour ça qu'Aristote dira « to pasken ». C'est important de souligner ça. La sensation est un pâtir. C'est le vivant qui pâtit. Ce n'est pas ce que je vois. C'est le vivant qui pâtit. Tandis que dans la vie végétative, qui normalement est un degré de vie inférieur, c'est très curieux, le degré de vie inférieur domine et le degré de vie supérieur est dominé. C'est quand même très curieux de voir ça. De voir tout de suite, et ça c'est très très important, ça a d'immenses conséquences, hein, si on sait réfléchir un peu là-dessus. C'est que dans la vie végétative, la première opération qui consiste à assimiler, j'assimile l'aliment, je le détruis, il devient moi-même. Donc je le domine, je l'ai absorbé. Et l'aliment n'existe plus, il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que le lion qui a mangé. Et il est heureux, parce qu'il a mangé, et la proie complètement disparue. C'est vrai, c'est royal de voir ça. De voir comment on est capable de faire que l'aliment disparaisse, il n'y a plus que le vivant. Tandis qu'au contraire, lorsque je sens la sensation, c'est l'inverse. Alors, je considère normalement que la sensation, c'est quelque chose de supérieur. Je n'ai pas encore précisé pourquoi, mais je constate que c'est quelque chose de supérieur, normalement. Pouvoir sentir, c'est supérieur au fait de ne pas sentir. Il y a quelque chose de plus qui s'ajoute. Je peux sentir et je peux avaler, manger. C'est quand même une qualité de pouvoir sentir ce que je mange. Quand je suis très enrhumé, je ne peux plus. Et je vois très bien qu'il y a quelque chose qui est ennuyeux. Vous savez bien ce que dit Dumas dans le premier livre de psychologie. Le premier livre de psychologie qui est sorti. Dumas dit cette chose très très jolie. Vous n'avez qu'à l'expérimenter, Ivan. Mettez un bandeau sur les yeux de quelqu'un qui prend son thé le matin. Évidemment, il ne faut pas que le thé soit là avant. Vous lui mettez un bandeau. Il se bouche le nez. Il ne pourra pas discerner si c'est du café ou du thé. Alors, quand vous dites ça aux amateurs de thé, ils rugissent. Puis vous leur faites l'expérience et puis vous constatez. Hein? C'est extraordinaire. Le goût, la vision. Et l'odorat. Comment le goût? Votre goût est déterminé par votre odorat et par vos yeux. On ne va pas jusqu'au vin pour dire ça. Parce que vous voyez, si vous disiez, mettez un bandeau sur les yeux et puis fermez. et puis se bouchez-vous le nez, on vous servira n'importe quelle piquette, n'importe quelle chose, oui, alors, vous trouverez que c'est la même chose. Hein. Ça tout dépend si on met le thé qui est le grand cru et le café qui est la piquette. Alors vous voyez, ça fait la différence entre les deux. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que ça montre que tout le problème de l'assimilation végétative est enveloppé du sensible. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai que quand les sens, l'odorat disparaît, on a moins d'appétit. L'appétit disparaît. Et quand on est aveugle, l'appétit disparaît aussi. Moins. C'est surtout l'odorat. L'odorat est le sens lié très très fort au point de vue de l'assimilation. Mais on distingue la sensation de l'assimilation. Et qu'est-ce qui se passe dans la sensation? Vous voyez, le noyau central de l'assimilation végétative, il est fondamental. L'autre, il l'enveloppe. Et c'est pour ça qu'il est plus parfait. Il est plus évolué. Il est plus évolué normalement. Donc il est plus parfait que le point de vue de ce noyau central. Cette vie sensible, qu'est-ce qui la caractérise? C'est le fait de pâtir. Je suis capable de pâtir en face des qualités sensibles, en face de ce que je vois, en face de ce que j'entends. Je pâtis. Et la réalité que je vois, la réalité que je touche, n'est pas modifiée par ma sensation. Il y a donc un type d'assimilation tout à fait nouveau. Je suis en présence avec la connaissance sensible d'un phénomène tout à fait nouveau, inverse de la vie végétative. Inverse. Puisque c'est le fait de la réceptivité du vivant qui est première. Tandis que du côté de la vie végétative, c'est le fait de la domination du vivant qui est première. Alors vous avez donc cette réceptivité quand il s'agit de connaître. Connaître, c'est être capable de devenir l'autre sans le modifier. On devient l'autre sans le modifier. L'autre reste ce qu'il est. Et je m'enrichis. J'acquiers quelque chose de nouveau sans que l'autre soit modifié. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une capacité du vivant de toucher l'autre. Je ne dis pas comment, et quand je le vois, je le touche, mais je ne le modifie pas. Je le touche d'une autre manière, et cette réalité me touche, elle m'atteint. Je ne le touche plus biologiquement, je le touche d'une façon sensorielle. Donc, je distingue tout de suite ces deux niveaux, le niveau de la vie biologique et le niveau de la vie sensorielle, qui fait qu'à ce niveau-là, je pâtis pour connaître et je ne modifie pas l'autre. Allons plus loin, troisième cercle si vous voulez, parce que c'est quand même troisième. Je suis capable, étant un vivant parfait, je suis capable de me représenter ce que j'ai senti violemment il y a quelques années, la Madeleine de Proust. Je me représente et je peux en devenir malade. C'est extraordinaire. Il y a certaines impressions, certaines odeurs, certaines touchées. Ah, c'est effrayant, ah, ne me remettez pas là-dedans. Ah, non, surtout, et puis simplement, on rappelle, on évoque. Et puis la personne est tellement prise par son imagination qu'elle est prise et on n'arrive plus à l'arrêter. L'imagination. L'imagination qui vous prend, qui vous saisit, c'est une autre manière de connaître. Mais alors là, vous voyez bien, il n'y a plus la réalité extérieure. Il n'y a plus de réalité extérieure. Il y a uniquement, au-dedans de moi-même, je peux, par un certain jeu de relations, je peux me mettre à évoquer ce que j'ai senti avant. Et je me représente d'une certaine manière. Je me représente d'une certaine manière ce que j'ai senti autour de cette boulangerie il y a 6 mois, ou hier, ça n'a pas d'importance. Non, il y a des choses qu'on se représente plus facilement quand c'est hier que quand il y a 6 mois, n'est-ce pas? Mais je peux me représenter, il y a une image qui me représente ça. C'est encore une connaissance, Alors, qu'est-ce que ça représente? Et c'est tout à fait différent, parce que là, c'est le sujet, au contraire, qui sent, qui imagine, qui fait tout. Ah, qui fait tout, attention, ça présuppose la sensation. Toute image présuppose la sensation. Je modifie le jeu des images, mais ça présuppose la sensation. Donc, ce n'est pas entièrement autonome. Quatrième cercle, le vivant, donc la vie végétative, 1, 2, 3, 4. Quatrième cercle, là, non seulement j'imagine, mais je pense. J'espère que vous arrivez tous à distinguer ces différents niveaux. Si vous n'y arrivez pas, essayez. Essayez, il faut essayer d'arriver à imaginer. C'est très très lié dans la vie, très très lié. Je crois qu'on peut arriver à discerner, vous voyez. C'est la première chose qu'on doit faire au point de vue critique. Et si on n'y arrive pas du tout, c'est pas commode. Je crois que vous discernez assez facilement quand même l'assimilation végétative, manger le petit pain et le sentir. Ça, je crois qu'on peut tous faire ce discernement. Tous, on peut arriver tous à faire ce discernement. Quand même, à arriver à voir ce que ça représente. D'avaler son thé ou son café, et puis le fait de le sentir. L'arôme du café, et puis ce que vous représentez uniquement, bon, l'assimilation végétative. Puis alors, le rêve, je crois qu'on peut tous voir la différence. Je peux m'imaginer quelque chose qui n'est pas du tout présent à moi. Et je sais très bien que ce n'est pas présent, c'est un rêve. Un rêve vécu actuellement. Ou le rêve vécu durant la vie, quand je suis endormi. Et puis la pensée, j'arrive à penser. La pensée implique tout le phénomène de la signification. Vous avez donc le domaine de la représentation, le domaine de la signification, et le domaine, la sensation. Vous voyez, je ne dis pas représenter, c'est très difficile d'exprimer la sensation. Je sens. Je ne me représente pas quand je sens. Je ne pense pas, je ne signifie rien quand je sens. Je sens telle odeur. Je touche le chaud. Pas de signification. C'est curieux. La sensation n'a pas de signification. Je peux ensuite donner une signification aux qualités senties. Ça, c'est autre chose. Mais alors, ce n'est plus la sensation, c'est la pensée. Donc, il y a la signification dans l'ordre de la pensée. Je peux aller plus loin dans l'ordre de la pensée. Je peux raisonner. Je peux raisonner. C'est encore une manière de penser, de raisonner. Vous voyez, quand je pense la pensée, je parle d'une intuition. Une espèce d'intuition, un raisonnement. Je peux juger et critiquer. Tout cela... c'est la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est difficile d'arriver à quelque chose de commun. Mais la réduction de toutes ces modalités particulières de la connaissance à quelque chose de propre à la connaissance, qui se retrouve selon ces diverses modalités. Je crois que je suis obligé de faire cet effort-là. Je pourrais remarquer, parce que déjà ici, vous voyez, j'ai fait une certaine hiérarchie. J'ai fait cette hiérarchie en fonction de quoi? J'ai fait une hiérarchie, alors vous dire, oh, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude, vous dites, bon, oui, on met toujours la vie végétative, la vie sensible, la vie imaginative, la vie intellectuelle, donc c'est une vieille habitude. Est-ce que c'est une vieille habitude ou est-ce que c'est de fait une hiérarchie que je découvre au niveau de la vie? Je crois que je peux dire que c'est une hiérarchie au niveau de la vie. Et cette hiérarchie se prend du côté de l'indépendance plus ou moins grande. Le vivant implique une autonomie. C'est pour ça qu'il assimile. Il assimile pour... L'assimilation, c'est l'opération de celui qui est autonome. Quand vous n'avez plus aucune autonomie, vous n'assimilez plus rien du tout. Il faut avoir une autonomie pour assimiler. Quand vous n'êtes plus du tout, vous êtes tendu, une espèce d'impossibilité, vous n'assimilez plus. Vous recevez la douche de l'extérieur, vous n'assimilez plus. Ça coule de l'extérieur. Vous n'assimilez plus. Pour assimiler, il faut une certaine autonomie. Le vivant implique cette autonomie, et ici, je donne une certaine hiérarchie des opérations vitales par le point de vue de l'autonomie. L'opération la moins autonome, c'est évidemment l'opération de la vie végétative, où je suis dépendant du beefsteak. C'est si je ne veux plus. Je suis dépendant de l'oxygène. Je suis dépendant du milieu. S'il n'y a plus d'oxygène, c'est fini. Je ne peux plus. Donc je suis dépendant du milieu. Dans la vie sensible, je suis encore dépendant du milieu. Mais la différence, c'est que je ne le détruis pas. Et ne pas le détruire, c'est une supériorité. Pouvoir assimiler sans détruire, ça prouve une très grande supériorité. Que je ne vois pas tout de suite. Mais ça dépend d'une très grande supériorité. La destruction, c'est toujours quelque chose de très primitif. Celui qui détruit, c'est un instinct très primitif. C'est la seule manière pour lui d'exprimer sa domination. Il y a des gens comme ça, qui s'en réduisent à des instincts primitifs. Et pour eux montrer leur domination, c'est détruit. Alors que si vous étiez un tout petit peu plus autonome, vous montreriez votre domination sans détruire. Et au fond, la vie sensible montre sa domination sur la réalité sensible sans la détruire, mais en la prenant, en l'absorbant. J'assimile les qualités. C'est très très beau de réfléchir là-dessus parce que ça fait comprendre ce que c'est que la véritable domination, la véritable autonomie. Vous voyez, l'autarkès grec, c'est très difficile à traduire. L'autonomie, l'autarkès. Le vivant implique l'autarkès. Il implique cette espèce d'autonomie-là qui fait qu'il est indépendant des autres. Parce qu'il est indépendant des autres, il est capable de le porter en lui sans les détruire. Et c'est ce que fait déjà la vie sensible, la vie imaginative à la suite de la vie sensible, et la pensée encore plus. Donc il y a un ordre hiérarchique du côté de la vie tout simplement des opérations vitales. Je me pose maintenant la hiérarchie du côté de la connaissance. Donc je laisse ce noyau primitif, c'est le cas de dire, c'est un noyau très primitif, c'est le noyau de la vie biologique. Je laisse ce noyau très primitif de côté et je ne regarde que les trois degrés de connaissance. Y a-t-il possibilité de découvrir un quelque chose de commun qui va me permettre de hiérarchiser le point de vue de la connaissance comme connaissance? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Alors, j'ai dit tout à l'heure, je vais vérifier maintenant si c'est vrai. Devenir l'autre sans détruire l'autre. Devenir l'autre comme autre sans le détruire. C'est peut-être ça la notion la plus commune, c'est la définition la plus simple de la connaissance. Devenir l'autre sans le détruire, en le respectant par le fait même, sans le diminuer, et simplement moi-même en prenant mon bien, c'est-à-dire en prenant ce que l'autre peut me donner, en prenant ce que l'autre peut m'enrichir. C'est vrai de la connaissance sensible, ça c'est vrai. De la connaissance imaginative aussi. Je deviens l'autre, puisque je le porte en moi, en dépendance de la connaissance sensible. Dans la pensée, quand je pense quelque chose, je pense par exemple animal ou chien. Je pense et je dis c'est un chien. Voilà un chien, voilà un animal. C'est l'autre, c'est pas moi. C'est l'autre que je pense, que je porte en moi et que j'arrive à exprimer et à dire ce qu'il est. Donc c'est bien l'autre que je porte en moi, que je saisis en moi et que je ne modifie pas. Donc il y a quelque chose de commun à toutes ces modalités de la connaissance qui consistent à devenir l'autre en tant qu'autre. Je crois qu'on peut dire ça, que c'est le propre de la connaissance, devenir l'autre en tant qu'autre. Ça prendra des modalités extrêmement différentes, mais c'est devenir l'autre en tant qu'autre sans le modifier. Je peux peut-être préciser, parce que devenir l'autre en le modifiant, en le transformant, c'est l'assimilation biologique. Devenir l'autre sans le modifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de le devenir intentionnellement. Alors ça, l'avantage, si vous voulez,
c'est que je qualifie l'âme. Je montre que je deviens l'autre intentionnellement, c'est-à-dire devenir l'autre sans le modifier. C'est ça l'intentionnalité.
Alors là, je définis vraiment la connaissance. La connaissance, c'est devenir l'autre intentionnellement. Intentionnellement veut dire tout simplement du fait même que je reçois de l'autre une détermination, que je suis modifié par cette détermination, mais que je ne transforme pas l'autre. Toute la connaissance est toujours au niveau de l'intentionnalité. Seule la vie végétative est au niveau substantiel. Ça, c'est intéressant à préciser. Mais ça, je ne vais pas entrer dedans, parce que c'est tout le problème du vivant. Mais c'est intéressant, au point de vue critique, de voir tout de suite que la connaissance se situe au niveau de l'intentionnalité. Je vais donc bien comprendre que je ne suis plus dans le domaine réel, existant, substantiel, autre que moi, mais je suis dans un domaine d'un réel que je porte en moi, qui est l'intentionnalité. Alors, une fois que je précise ça, devenir l'autre intentionnellement, je vois que je deviens l'autre intentionnellement selon des modalités très différentes. Première modalité, le niveau de la qualité sensible. Seconde modalité, au niveau de l'image. Troisième signification, troisième point de vue au niveau de la signification. Mais chaque fois, je deviens l'autre intentionnellement, à des niveaux différents, c'est-à-dire à des profondeurs différentes. Et je vois par le fait même que la connaissance qui est la plus connaissance, c'est la connaissance qui implique la signification. Puis c'est la représentation, puis c'est l'aspect de la sensation. Parce que l'autre, je le deviens plus profondément quand je le pense que quand je le représente ou quand je le touche. Donc, j'ai gradué au niveau proprement de la connaissance ces différents niveaux de connaissance. Ce qui me permet de comprendre que la diversité de ces connaissances que j'ai constatées implique une hiérarchie. Implique un ordre. Parce que ces diverses connaissances sont plus ou moins connaissances. Mais vous savez, il fallait savoir ce que c'était que la connaissance. Vous voyez, le premier problème critique, il va loin ce premier problème. Je vais vite, mais je souligne quelque chose d'important. Le premier problème critique consiste à constater qu'il existe en moi une multiplicité de modalités de connaissances. Deuxièmement, je me pose la question, est-ce que je peux ordonner ces connaissances? Pour pouvoir ordonner ces connaissances, il faut que je saisisse qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et une fois que je saisis qu'est-ce que c'est que la connaissance, je peux donc voir les réalisations plus ou moins parfaites de cette connaissance. Oui, là, vous avez un procédé tout à fait critique. Je pars de la multiplicité, je veux ramener la multiplicité à l'unité. Et une fois que j'ai ramené la multiplicité à l'unité, je peux regarder les différentes modalités. Et je vois que le problème de la connaissance, c'est le problème de l'intentionnalité. Intentionnalité sensible, intentionnalité imaginative, intentionnalité intellectuelle. Il y a des niveaux d'intentionnalité différents. Alors, encore un petit problème, puisque nous ne l'avons pas traité ici. Mais les interférences de la volonté et de l'amour ne vont-elles pas modifier cet ordre? Parce que je suis dans l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est pas seulement une intentionnalité au niveau de la connaissance. L'intentionnalité existe aussi au niveau affectif. Alors ici, moins directement la critique, puisque je ne fais pas la critique de l'affectivité, mais comme l'affectivité est toujours présente dans la connaissance, il est quand même intéressant de voir les modifications de la connaissance qui se font par le problème de l'affectivité. Il y a une affectivité qui se situe au niveau passionnel et donc au niveau sensation et imagination. Vous
voyez comment l'affectivité
unit ces deux niveaux. Je n'ai pas un niveau passionnel, je n'ai pas un niveau affectif passionnel distinct au niveau imaginatif et au niveau sensation. Ça, c'est très intéressant à noter. Je n'ai pas de niveau différent. Au niveau affectif, je ne peux pas distinguer. D'où les tas de confusions et ce qui explique les hallucinations. Il faut quand même les expliquer, les hallucinations. C'est très intéressant à expliquer. Or, les hallucinations, c'est quoi? C'est la confusion entre le rêve et la sensation. Très simple. Philosophiquement, c'est très simple. La démarque est très dite. Quand vous êtes dedans, hein, c'est moins simple. Mais à ce moment-là, vous ne faites plus beaucoup de philosophie. Non. Mais c'est la démarcation entre les deux. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'est toute la question de Freud est là. Alors qu'il faut essayer de saisir. Parce que la question de Freud veut faire une psychanalyse affective sans regarder le domaine des connaissances. C'est ce que Piaget lui a lancé en plein, en disant « Vous ne pouvez pas faire une psychanalyse affective, il faut le faire du côté de la connaissance. » Alors c'est toujours les deux. Piaget, c'est du côté de la connaissance, et Freud, c'est du côté affectif. Alors il est intéressant de voir que de fait, il y a les deux. Et je ne peux pas uniquement au niveau connaissance, parce qu'au niveau connaissance, au niveau affectif, je suis devant ce phénomène très particulier, c'est que l'intentionnalité affective, c'est la passion, en premier lieu. On est tous un peu passionnés, quoi. Soyez passionnés pour le chocolat. Première passion, pas dangereuse, parce que le chocolat ne vous en voudra pas. Tandis que vous êtes passionnés pour des êtres humains, ils vous en voudront. Alors c'est différent, non ? Tandis que pour le chocolat, il n'y a aucun danger. Mais vous êtes au niveau biologique. Hein. Parce que vous êtes passionnés pour le chocolat, vous le mangez, et vous en mangez beaucoup, et vous en mangez trop. Alors vous voyez comment ils se vendent. Ils se mangent par la quantité. Donc, le point de vue, tandis que le point de vue passionnel, le point de vue affectif passionnel, parce qu'on pourrait parler de l'affectivité, hein, des instincts, mais là encore, c'est intéressant de voir que l'affectivité passionnelle recouvre ces trois domaines. Elle recouvre le domaine, alors il y aura des affectivités plus ou moins profondes, mais elle recouvre ces trois domaines. Le domaine instinctif, le domaine de la sensation et le domaine du rêve. Et vous avez le domaine de l'affectivité passionnelle. Et ce domaine de l'affectivité passionnelle reprend les trois. Alors, je pourrais discerner certains moments plus ou moins, mais je ne peux pas faire une vraie distinction. Et j'ai une seconde affectivité, une affectivité spirituelle. Alors vous allez me poser la question, mais y a-t-il une affectivité spirituelle à l'état pur? Ou est-ce que toute affectivité spirituelle n'est-elle pas liée à l'affectivité passionnelle? Alors je dirais donc qu'il n'y a qu'un seul domaine affectif, un domaine affectif qui est le domaine affectif spirituel, passionnel, sensible, instinctif. Il y a un très très gros problème là, vous voyez? Et au point de vue critique, c'est très très important de voir ça au point de vue critique. Parce que je ne fais pas uniquement la critique de la connaissance, je fais la critique de ma connaissance affective aussi. Et si je fais la critique de ma connaissance affective, il faut donc comprendre ce que représente cette affectivité qui intervient dans le point de vue de l'intentionnalité de la connaissance. Il y a une intentionnalité affective qu'on ne peut pas nier, c'est pour ça que je l'ai prise tout de suite au niveau passionnel. Au niveau passionnel, elle est visible. C'est la seule personne qui est passionnée qui ne la voit pas. Donc, elle est visible pour les autres et elle est aveuglante pour celui qui est passionné. Et c'est vrai, elle est aveuglante pour celui qui est passionné. Quand on est très passionné, on ne voit plus. On dit, mais non, je ne suis pas du tout. Regardez comme je suis objectif. Et puis en même temps, on fait une espèce de choses tout à fait peu objectives. C'est très curieux, le point de vue de la passion. Et c'est très important et très intéressant de voir ce que c'est que cette affectivité passionnelle, cette intentionnalité affective. C'est quelque chose de très particulier. Alors je vous laisse sur cette question-là. C'est un problème qu'il faut découvrir vous-même. Et c'est passionnant et c'est très important.
No. Yeah.
No, this is
yeah.
Good.
Yeah. Skin. Très dangereux, ça peut bloquer la
oui,
passion,
que c'est
la passion
dangereux.
Spirituelle.
Oui, je sais que c'est.
Pour éviter la passion.
Pardon ?
Pour éviter la passion.
Ah non, non, non. Là, il faudrait bien. Mais c'est ça.
Vraiment, ça vaudrait bien ?
Non, pas.
Ah bon ? Je commençais à être inquiet.